Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième talk dédié à l'intelligence embarquée dans l'automobile. Merci à Marie d'avoir assuré le talk la semaine dernière avec Guillaume Parvé de chez Hyundai Motor Group. Et lors du talk de la semaine dernière, on s'est interrogé sur la manière dont un constructeur aborde la question de l'intelligence embarquée dans l'automobile avec ses dispositifs d'innovation. Et puis, on s'est interrogé aussi sur la stratégie un peu plus long terme sur la question de ce véhicule intelligent. Et aujourd'hui, voilà, on a la chance de pouvoir travailler ce sujet du véhicule connecté avec un grand du numérique. Et aujourd'hui, on va voir comment Google se positionne en fait sur l'industrie et le marché automobile. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Bertrand Girard, en charge des partenariats constructeurs chez Google. Bonjour Bertrand.
Salut Vincent, merci beaucoup. Écoute, ça tombe bien parce que nous, l'intelligence embarquée dans le véhicule, tu vois, on le voit en collaboration avec les constructeurs, donc on s'inscrit bien dans la lignée de tes talks. Et je pense que c'est une bonne chose. Alors moi, je travaille pour un géant du numérique, ouais, mais je suis tout petit. Hein. Je suis Bertrand, je travaille chez Google depuis 8 ans. J'ai occupé diverses fonctions chez Google, toujours en lien avec l'automobile et la mobilité. Et depuis 2 ans, bah, je m'occupe, comme tu l'as dit, des partenariats stratégique avec les constructeurs automobiles. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avec les constructeurs, tu vas identifier des projets de collaboration innovants et puis les mettre en œuvre, tu vois. Et pour les mettre en œuvre, il faut assurer la meilleure collaboration possible entre toutes les entités de Google. Et tu vois, on est une grande entreprise, on a beaucoup d'entités. Et puis, il faut que ces entités, bah, elles favorisent un petit peu le développement de solutions qui soient dédiées au secteur automobile. Alors Google, on n'est pas une société automobile, hein, tu vois, on est une société jeune, hein, on a 23 ans cette année, on est une société de l'information, et puis notre mission Google depuis 98, c'est toujours, hein, d'ailleurs, d'organiser toute l'information disponible dans le monde et puis de la rendre accessible et utile à tous. Et alors, pour répondre à cette mission, tu vois, depuis 98, on a mis à disposition des utilisateurs et des entreprises des produits. Le moteur de recherche, ça vous le connaissez, donc il y a des produits qui permettent de classifier l'information, tu vois, moteur de recherche, Google Maps, YouTube. Il y a des produits qui permettent d'accéder à cette information, Chrome, le navigateur, Android, le système d'exploitation des téléphones, et puis on va en parler un peu plus d'Android ensemble ce matin. Et puis toute la technologie qui est sous-jacente, qui permet à ces produits d'exister. Tu vois, les data centers, le cloud computing, le machine learning, etc. C'est ce qui permet à ces produits d'exister. Et donc tout ça, en fait, on s'est rendu compte que ces produits, ces solutions, ils étaient capables de répondre à un tas de besoins et à des besoins spécifiques de constructeurs automobiles. Et ce, tu vois, tout au long de la chaîne de valeur du véhicule. Tu vois, de la création de véhicules, la R&D, c'est de la simulation, etc., jusqu'à la commercialisation. Là, on est capable d'accompagner, tu vois, avec de la publicité, on est capable de mettre en relation le constructeur ou les concessionnaires avec les acheteurs automobiles. En passant par le fait de connecter les usines, tu vois, les usines génèrent des données aujourd'hui, donc on les connecte. Et puis, ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, la connectivité et l'intelligence qui est embarquée dans les véhicules, et ça au travers d'Android, au travers de Edge Computing, etc. Et on va en discuter un peu plus longuement là.
Ouais, complètement. Merci d'être rentré directement en fait dans le vif du sujet. En effet, ouais, ça va être très riche de voir comment Google vous positionnez sur ce marché, puisque en effet vous développez des technologies qui sont transverses. Voilà, puisque vous organisez l'information et puis le marché de l'automobile au global, de la production à la distribution devient de plus en plus connecté à l'utilisation. Je vous invite tous voilà, à vous présenter dans la section de chat dédiée et surtout à poser des questions. On aura un temps à la fin de cet échange pour prendre quelques questions. Bertrand, c'est vrai qu'on va parler d'Android aujourd'hui. Voilà, vous avez deux produits assez phares en fait qui sont visibles par l'utilisateur. Donc du coup, ma première question, c'est comment Android Auto et Android Automotive peuvent-ils améliorer l'expérience conducteur? Je sais que l'expérience conducteur, l'expérience utilisateur, c'est quelque chose qui est très important chez vous.
Ouais, et bah écoute, tu vois, nous on est une entreprise, donc on a 23 ans et ça fait 15 ans qu'on collabore avec des constructeurs automobiles sur cette partie-là. Donc si tu veux, l'automobile chez Google, c'est arrivé assez rapidement. Et ça fait 15 ans qu'on collabore à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule. Et je pense qu'on va parler des deux parce que c'est ça qui est important dans l'intelligence embarquée. Juste pour te marquer un peu l'évolution, tu vois, il y a 15 ans, en 2005, qu'est-ce qu'on faisait dans l'automobile? Et ben on avait un produit que les gens ont un peu oublié, mais qui est vraiment super et qui existe toujours, qui s'appelle Google Earth. Et la première, escapade de Google dans l'automobile, ça a été d'apporter les fonds de cartes et les cartes Google Earth sur des environnements propriétaires de constructeurs. Donc on parle toujours de l'infotainment. L'infotainment, c'est cet écran que tu as dans le véhicule qui permet d'accéder à des informations de navigation, à des informations de conduite. Et donc, en 2005, c'était Google Earth. En 2010, on a développé toutes les applications, les API de Google Maps, tu vois. Les API de Google Maps, elles permettaient toujours, tu vois, d'intégrer la carte Google Maps dans le véhicule et puis d'intégrer des choses qui étaient très intéressantes pour les constructeurs. C'était surtout les points d'intérêt. Donc, Google Maps, tu vois, c'est un logiciel d'information, donc on collecte de l'information locale, et les points d'intérêt, c'est les adresses, c'est les choses comme ça. Et ces API-là, vous les utilisez un petit peu tous les jours, un peu partout, sans vous en rendre compte forcément. Mais par exemple, à chaque fois que ça auto-complète un champ, il y a une chance que ça passe par une API de Google Maps qui te permet d'auto-compléter l'adresse. Donc, tu vois, en 2010, quand tu étais avec ta molette en train de taper A, B, C, D pour trouver ta rue dans ton navigateur, Google Maps t'aidait déjà si tu as auto-complété ça. Alors aujourd'hui, tu les as mentionnés, en fait, le produit que les gens connaissent et dont les gens sont familiers, c'est Android Auto. Android Auto, c'est disponible dans 100 millions de véhicules qui roulent aujourd'hui. Android Auto, c'est un SDK, c'est une application et un SDK qui s'installe sur les systèmes propriétaires ou non des constructeurs automobiles et qui permet aux conducteurs, tu vois, de retrouver, d'accéder à toutes ces applications dans un environnement qui est sécurisé, qui est celui du véhicule, tu vois, celui de l'écran du véhicule, simplement en connectant son téléphone à l'aide d'un câble USB et puis demain en wireless. C'est déjà disponible sur quelques véhicules. Et puis, avec cette connectivité, tu vois, on réplique l'environnement du téléphone dans le véhicule et on donne accès de manière assez simple, peu coûteuse, c'est gratuit tout ça, à l'utilisateur, à ses applications et ses services qu'il a sur son téléphone. Alors, tu vois, en parallèle, et pour aller plus loin, on a ce que tu as mentionné. Donc, il y a Android Auto d'un côté, vous avez la connectivité. Puis, on a Android Automotive OS. Alors, OS, c'est Operating System. Et donc, Android Automotive OS, c'est un système d'exploitation qui est open source, gratuit, comme, si tu veux, Android sur les téléphones, et qui est mis à disposition des constructeurs automobiles. Alors, il est un peu différent d'Android parce qu'il est optimisé spécialement pour l'automobile. Il est mis à disposition des constructeurs pour qu'ils se basent dessus pour développer leur propre système d'infotainment. Et donc, c'est un système d'exploitation comme ils pourraient utiliser Linux ou d'autres, si tu veux. Ils sont capables d'utiliser Android Automotive OS pour développer ce système et pour proposer aux conducteurs une expérience qui est totalement intégrée, où, si tu veux, il n'y a plus besoin de connecter son téléphone dessus, et les constructeurs, à l'aide de cette base-là, peuvent, tu vois, développer et proposer un accès natif à toutes les applications existantes sans même avoir, tu vois, son téléphone dans la voiture. Donc, si tu l'oublies, ton véhicule est capable, tu vois, d'accéder à ces applications. Là, on parle juste d'infotainment, tu vois, donc on parle de ce qu'il y a à l'intérieur du véhicule, donc c'est sûr qu'on se concentre pas mal sur Android, mais de l'intelligence embarquée dans le véhicule, tu vois, un véhicule connecté et intelligent, c'est beaucoup plus que ça, évidemment, et puis c'est beaucoup plus que l'infotainment même, tu vois. C'est 1 million de services dans le véhicule, des services de sécurité, des services, tu vois, divers et variés qui, eux, sont connectés, et pour que tout fonctionne correctement, il faut que le véhicule soit capable de faire beaucoup de calculs. Et ces calculs-là, il n'est pas obligé de les faire à l'intérieur du véhicule parce que ça nécessiterait une puissance de calcul que de temps en temps il n'est pas capable d'avoir. Et c'est là qu'il peut décider de les faire à l'extérieur. Et à l'extérieur, tu vois où je veux en venir, c'est le cloud. Pour ça, il faut qu'il soit connecté à une infrastructure, qu'il soit capable de faire ses calculs, capable d'ingérer de l'information, capable d'échanger de l'information. Et c'est là que toute la partie Google Cloud, tu vois, peut intervenir et intervient déjà avec certains constructeurs pour les aider à construire cette infrastructure de véhicules connectés qui va permettre à l'intelligence embarquée d'exister dans le véhicule. Et le meilleur exemple de ça, tu vois, c'est la mise à jour des systèmes. Alors, on a des marques fabuleuses de véhicules que les auditeurs connaissent, qui s'appellent Tesla et autres, qui mettent déjà à jour leurs véhicules en temps réel, etc. Et donc, pour ça, ils s'appuient sur des infrastructures qui sont des infrastructures de ce type. Et donc, on est partenaire avec l'industrie automobile aussi pour construire ces produits, construire ces infrastructures et permettre à ce type de système d'exister.
Okay. C'est vrai que tu as déjà commencé à aborder voilà, la typologie de partenariat que voilà, Google a développé avec les constructeurs. On a bien vu côté utilisateur-conducteur ce qui est possible de faire, mais voilà, au-delà de, en fait, de la mise à disposition d'infrastructures cloud, voilà, est-ce qu'il y a d'autres types de partenariats que tu pourrais citer avec les constructeurs?
Ouais, bah alors, tu vois, j'ai donné de manière générale, mais je vais te donner un peu des exemples particuliers. Écoute, un exemple qui est très récent et un qu'on adore, on en est hyper fier et on est hyper fier pour Renault, c'est le lancement de leur dernier véhicule, si tu veux, la Renault Mégane E-Tech électrique, qui a été lancée au salon de Munich, l'IAA. Donc c'est le segment C hein, de électrique de Renault, c'est ce qui préfigure la prochaine génération de véhicules Renault. Lui, il intègre un système d'infotainment. Donc là, on parle d'infotainment qui s'appelle Open Air Link, qui est un système qui a été développé par Renault, complètement par Renault. C'est un système Renault avec un look and feel Renault, avec des applications Renault, mais qui lui est basé sur Android Automotive OS. Et donc c'est le meilleur exemple aujourd'hui de ce qu'on peut faire à l'heure actuelle avec les constructeurs automobiles. Donc tu vas avoir cette dalle dans le véhicule de 24 pouces avec tous tes services connectés, avec toutes tes applications. Et qui vont être complètement seamless. De temps en temps, la question qu'on nous pose, c'est mais moi, j'ai un iPhone, etc. Là, on se pose pas la question de l'iPhone. Tu rentres dans ton véhicule, on se pose la question de quel service tu veux utiliser. Est-ce que tu veux utiliser iTunes pour écouter tes podcasts? Est-ce que tu veux utiliser Spotify? Toutes ces applications, elles sont disponibles dans le Play Store, elles seront disponibles dans la Mégane e-tech électrique au moment de son lancement en début d'année prochaine. Et puis, ces intégrations, elles vont beaucoup plus loin que le fait de connecter son téléphone, elles sont natives, comme je te le disais. L'exemple même, c'est qu'elles interagissent avec le véhicule. Donc, l'assistant Google qui sera présent dans le véhicule, il va te permettre d'interagir avec le véhicule, donc de poser les questions au véhicule et puis surtout de faire agir le véhicule, d'activer des fonctions, de modifier la température du véhicule, de faire des choses comme ça, des choses qui sont impossibles à faire avec ton simple téléphone branché en USB. Et puis, des intégrations avec la carte et qui seront hyper excitantes aussi. Là-dessus. Donc, tu vois, tout ça, c'est un super partenariat. On est fiers de ça. Si tu essayes de prendre un petit pas de recul, tu vois, tout ça veut dire le software dans le véhicule. Et puis, on a parlé un peu d'infotainment, d'infrastructure. Tous les constructeurs sont en train, là, de prendre le tournant, de prendre le virage, de développer des capacités software dans le véhicule. C'est pas un truc qui est simple, tu vois, surtout quand tu es un constructeur qui a 100 ans qui s'est basé sur des capacités d'engineering hardware, d'engineering véhicule moteur jusqu'à maintenant, de prendre ce virage et de développer des capacités software. Et là, c'est un autre type de partenariat dont je voulais te parler. Tu vois, c'est un partenariat qu'on a monté avec Volkswagen et avec l'école 42 pour lancer une école qui sera accolée à Volkswagen, à Wolfsburg, à côté de Berlin, en Allemagne. Donc 42, vous connaissez, c'est cette école informatique qui a été lancée sous l'impulsion de Xavier Niel avec une super pédagogie innovante. Il y a un objectif, tu vois, pallier un peu à la pénurie de talents et puis créer les talents et insuffler, si tu veux, les développeurs software de demain pour l'automobile. Et donc, dans cette école, il y aura tout la pédagogie 42 et puis il y aura un cursus spécial et spécial dédié à l'automobile, un cursus de software engineering automotive et de mobility. Donc tu vois, ça intéresse vieille idée aussi. Et puis cette école, voilà, elle est sponsorisée, accompagnée par Google et par Volkswagen pour demain. Et puis après, on a parlé des usines, tu vois, c'est un peu moins le sujet d'aujourd'hui, mais on a un partenariat très développé pour connecter les usines Renault de demain. Donc c'est tout ce qui concerne l'industrie 4.0, mais c'est voilà le genre de partenariat qu'on fait, tu vois.
Ok, merci beaucoup pour ces illustrations, c'est très concret. Peut-être avant de prendre quelques questions, je vois qu'il y en a pas mal. Une dernière pour toi, Bertrand. Voilà, si on se projette un peu, voilà, on a bien vu qu'Android Automotive, ça permet une certaine intégration. Voilà, vraiment, cette intelligence embarquée, on la sent bien. Le software prend toute la place maintenant dans le véhicule. Et demain, voilà, qu'est-ce que Google voit comme futur, en fait, sur le marché et l'industrie automobile?
Alors demain, c'est très large hein, comme question, donc toujours un peu difficile. Mais si tu veux, voilà, j'essaie d'y répondre. On s'inscrit vraiment dans, tu vois, dans la vision que tu peux déjà avoir, connectivité, autonome, etc. Et je pense que on va pas aller à l'encontre de ça. Pour vous donner, tu as peut-être une vision peut-être plus liée à Google, etc. Je pense qu'il y a deux choses qu'on voit, nous, deux orientations majeures. Il y en a une pour l'expérience. Tu vois, et c'est l'expérience qu'on voit, c'est une expérience qui sera plus fluide, plus liquide, tu vois, à l'intérieur du véhicule, qui sera plus assistée aussi, et puis on l'espère plus utile pour le conducteur. Et puis si je veux te donner 2-3 pistes, tu vois, on passe d'une expérience un peu conducteur à une expérience habitacle tout entier. Avec, tu vois, forcément des fonctionnalités autonomes de véhicules qui vont se développer dans le futur. On passe, tu vois, d'une conduite qui est manuelle et puis une conduite de plus en plus assistée, autonome. Et puis, on passe d'un véhicule qui ne générait aucune donnée ou qui était son propre générateur de données et puis un véhicule qui est connecté au reste et puis qui génère beaucoup, beaucoup de données et qui interagit avec l'extérieur. Et tout ça, tu vois, ça va donner pour nous une expérience qui sera plus fluide, plus assistée. Puis qui est liée à la deuxième, tu vois, qui est notre vision pour le véhicule. La vision pour le véhicule, c'est la vraie question, tu vois, c'est la place que le software va jouer et la manière dont tous les différents softwares qui sont déjà dans le véhicule vont interagir entre eux et puis vont se gouverner entre eux, si tu veux, pour créer cette expérience de demain. Dans l'industrie, il y a beaucoup d'efforts qui visent à créer ce qu'on appelle le software defined vehicle. C'est cette plateforme de software centrale qui va permettre, tu vois, à toutes les parties de véhicule d'interagir entre elles et à fonctionner ensemble. Et chez Google, voilà, on a envie d'être le partenaire de l'industrie à tous ces niveaux pour développer, voilà, des solutions qui soient utiles, qui améliorent la fluidité de l'expérience utilisateur et puis qui apportent un peu nos compétences software à cette industrie qui essaye de se développer là-dessus et à nos partenaires. Voilà.
Ok, merci pour ça. Maintenant, je propose de prendre quelques questions. Stéphane, de chez Total, s'interroge, est-ce que Waze est considéré comme un produit d'intelligence embarqué Google? C'est assez intéressant. Comment est-ce que vous positionnez Waze?
Alors oui, bien sûr. Alors la question revient souvent, si tu veux, du positionnement de Waze par rapport à Google Maps, de la volonté secrète de Google peut-être de fusionner les deux applications. Écoute, c'est pas au programme. Pour l'instant, on a deux applications qui sont super, l'une et l'autre. Il y en a une qui s'inscrit vachement dans l'accompagnement du conducteur. C'est Waze, et une qui s'inscrit dans des accompagnements, si tu veux, un peu plus larges, qui est très utilisée dans le véhicule aussi, mais qui va, qui a une approche un petit peu différente, qui est plus une approche de mobilité globale qu'est Maps. Pour l'instant, ces applications, elles ont des bases d'utilisateurs qui sont, séparées, et puis elles ont des technologies qui sont séparées. Tu vois, les algorithmes de routing sont pas les mêmes. La manière dont les cartes sont updatées sont pas les mêmes non plus. Tu vois, Waze s'appuie beaucoup et je les salue là et je les remercie sur toute la communauté de contributeurs Waze, d'éditeurs de cartes Waze pour éditer la carte. Et donc, Waze est considéré comme un produit d'intelligence embarquée, bien sûr. Donc, si tu veux, dans Android Auto, Waze est disponible. Tu peux l'utiliser et je pense que c'est parmi la première. C'est pas la seule. Tu vois, toutes les applications, même qui n'appartiennent pas à Google, qui font de la cartographie, des points de recharge, etc., elles sont invitées sur ces plateformes. Android, c'est une plateforme ouverte qui s'adresse à tous les développeurs. Donc, c'est pas la seule. Et donc, pour répondre à ta question, oui, et puis pour l'ouvrir, oui, il y a d'autres aussi dans l'intelligence embarquée. On n'a surtout pas envie de fermer. Ça, c'est vraiment l'esprit Android.
Ok, merci beaucoup. Je vois qu'on a, beaucoup de questions, donc je vais en prendre quelques-unes. Et puis, je proposerai, Bertrand, si tu veux bien, voilà, d'y répondre par écrit, je reviendrai vers vous. Olivier Didat, du groupe IMA, s'interroge, quels sont les constructeurs utilisant Google OS actuellement? Ouais, est-ce que tu peux nous partager une liste de constructeurs qui sont sous Google OS?
Alors, je peux pas te donner toute la liste. Après, c'est souvent, tu vois, nous, on laisse les constructeurs communiquer quand ils en ont envie sur l'utilisation ou non de Android Automotive OS. Ce que je peux te dire, c'est que 10 des 15 plus gros constructeurs dans le monde, tu vois, utilisent ces technologies pour développer leurs services. Alors, c'est plus ou moins visible, tu vois, à l'utilisateur final et au driver dans le véhicule. Mais dans les constructeurs, tu vois, européens, Stellantis est un constructeur qui utilise Android Automotive OS. Renault, dont on a parlé, utilise Android Automotive OS. Et puis, tu vois, rien que ça, c'est une grande fierté. Récemment, Honda a annoncé qu'il allait utiliser la plateforme aussi, GM aux États-Unis. Donc voilà, voilà des noms que je peux te donner.
Ok, merci beaucoup. Stéphane, je suis total énergie. Merci de m'avoir repris dans le chat. Se demande, est-ce que vous pourriez préciser comment des API ou SDK externes à Google, de potentiels points d'intérêt, comme des localisations de points de recharge électriques, de recharge digitale de VE, micro-mobilité, peuvent être embarqués dans Android OS?
Alors, c'est une question très très compliquée, hein. Donc, difficile d'y répondre en 15 secondes. Une manière d'y répondre, si tu veux, c'est le fait que on est en train d'ouvrir, tu vois, de plus en plus d'applications le Play Store automobile. Et on a pour vocation de l'ouvrir au plus d'applications possible. Ce qui fait que l'ouverture est progressive. C'est pas qu'on n'a pas la volonté de le faire. C'est que on essaye de le faire en partenariat avec les constructeurs, si tu veux, pour garantir une expérience sécurité à l'intérieur des véhicules. C'est pour ça que tu vois, les applis de messaging, les applis, enfin, c'est difficile pour nous d'intégrer tout un tas d'applis. C'est pour ça que les applis d'entertainment aussi, de vidéo, etc. C'est difficile de. Pour l'instant, tu vois, et l'ouverture est récente, mais toutes les applis qui proposent une localisation des points de recharge, etc., commencent à pouvoir apparaître maintenant dans le Play Store. Et donc, il y a un template, voilà, qu'on a développé, tu vois, pour faire apparaître tout ça. Après, la question est un peu plus large que ça, et j'invite notre camarade de Total Energy, si tu veux, à rentrer en contact avec Google directement, pour discuter un peu plus de ces points-là. Elle pose la question de l'intégration dans Google Maps directement, tu vois, dans Google Maps. Alors, on fait beaucoup d'efforts aussi, tu vois, dans Google Maps pour intégrer les points de recharge, pour donner plus de visibilité à l'utilisateur sur la disponibilité de ces points de recharge, etc. On veut le faire en partenariat, hein, en partenariat avec Total Energy, en partenariat avec tous les autres, parce qu'encore une fois, tu vois, plus l'information est fiable, plus l'information est obtenue en partenariat avec les gens qui ont l'information, meilleure elle est pour nos utilisateurs à la fin. Et donc, on y travaille. Tout ça, ça va très vite, hein. On est entreprise comme les autres, donc tu vois, on a des roadmaps, on a des ressources limitées pour développer à tous, enfin, tu sais, pour travailler à tous ces développements. Et donc, de temps en temps, c'est ce qui peut expliquer aussi que peut-être il y a une chose qui sort et pas tout le reste. Mais voilà, on y travaille avec toute la bonne volonté qu'on peut, et puis avec tous les efforts d'ingénierie qu'on peut mettre à disposition. Bien attention.
Entendu. Ok, merci pour ça. Je prends une dernière question, mais pour les autres, voilà, ne vous inquiétez pas, je transmettrai à Bertrand et peut-être voilà, il pourra prendre un petit moment pour y répondre. Une dernière question. Stéphane Lecorp de IMA se demande comment est-ce que Google s'inscrit dans le diagnostic avancé prédictif? Là aussi.
C'est excellente question aussi. Alors, si tu veux, jusqu'à maintenant, c'est les constructeurs et les partenaires qui s'inscrivent dans le diagnostic avancé. Nous, Google, on veut être un enabler de ça. Donc, on veut mettre à disposition des technologies qui permettent de réaliser ces diagnostics avancés. Ces technologies, tu vois, c'est des technologies, comme je te le disais, de collecte d'informations, de processing d'informations, etc. Mais pour l'instant, on n'a pas vocation à faire nous-mêmes du diagnostic avancé, tu vois, c'est un métier, et c'est pas le nôtre. Mais par contre, nous, on sait ingérer des grandes quantités de données, on sait les interpréter, on sait faire de l'intelligence artificielle dessus, et donc on est prêt à mettre à disposition, tu vois, toutes ces technologies au travers de Google Cloud aux acteurs qui veulent bien les utiliser pour réaliser ces technologies de diagnostic avancé.
Ok, Merci Bertrand, merci beaucoup pour cet échange, c'était vraiment, vraiment très riche. Et merci à tous d'avoir suivi ce talk dans une série dédiée à l'intelligence embarquée dans le véhicule qui prendra fin la semaine prochaine, même jour, même heure, avec Tronity. J'aurai le plaisir de discuter avec Thorsten Borg, qui travaille dans cette start-up qui permet en fait à du conducteur de récupérer toutes les données de son véhicule et de les partager à des tiers. Voilà, ça va être vraiment intéressant d'obtenir ses vues en fait sur le développement de la donnée et de la capacité des utilisateurs à la valoriser. Merci encore Bertrand, merci à tous d'avoir suivi ce talk. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.
Merci Vincent, merci à tous.